Merci, mon père. Je souhaite le bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Sacré-Cœur de Jésus et des liens qu'il y a entre Notre-Dame des Victoires et Paray-le-Monial. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous informe qu'un pèlerinage aura lieu le mois prochain, autour du 11 octobre, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y a des bulletins d'inscription au fond de la basilique. Voilà, c'est la troisième année que les paroissiens de Notre-Dame des Victoires vont à Paray-le-Monial. Donc, je vais vous parler du Sacré-Cœur. Un des confidents les plus intimes de Sainte Marguerite Marie, celui qu'elle appelait son cher frère dans le Sacré-Cœur de Jésus, nous indique la dévotion à Marie comme le moyen le plus sûr d'arriver à l'amour du Seigneur. Car, dit-il, les Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie sont trop unis pour avoir l'entrée de l'un sans avoir l'entrée de l'autre, mais avec cette différence que le cœur de Jésus ne souffre que des âmes extrêmement pures et que le cœur de Marie, purifié par les grâces qu'elle leur obtient, celles qui ne le sont pas, et les met en état d'être reçus dans le Sacré-Cœur de Jésus. Alors celui que Marguerite Marie appelait son cher frère dans le Sacré-Cœur, c'était Saint Claude de la Colombière. En effet, honorer le cœur de Jésus, n'est-ce pas réjouir le cœur de Marie? N'est-ce pas elle qui l'a formé, qui en a recueilli les premiers battements, qu'il a le plus connu et le plus aimé? C'est elle qui nous guidera vers le cœur miséricordieux de son Fils. Elle nous dira que le cœur de Jésus veut être aimé parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, ces propos ne sont pas de moi, mais de Saint Claude de la Colombière. Alors, avant de vous emmener en pèlerinage à Paray-le-Monial, je voudrais vous exposer dans les grandes lignes, sinon on y serait encore cet après-midi, l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Alors c'est une dévotion qui a ses racines avec l'apôtre Jean, qui repose sur le cœur de Jésus. Les siècles suivants, avec en particulier les croisades, exaltent la passion du Christ. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur se répand, mais sans s'établir officiellement. Elle est pratiquée par différentes congrégations religieuses, comme les franciscains, les dominicains, les chartreux, avec des figures majeures, Bonaventure, Jean de Fermeau, Mathilde Magdebourg, Mechtilde Hackeborn et Gertrude de Helfta. Au XVIIe siècle, il y a deux figures qui se détachent, Saint Jean Eudes et Sainte Marguerite Marie. Alors Saint Jean Eudes, lui, est né au début du XVIIe siècle. Il fut appelé le premier apôtre du cœur de Marie. Il unit les deux cœurs en 1634 parce que pour lui, les chrétiens doivent être unis dans les deux cœurs, comme ces deux cœurs de Jésus et de Marie ont été unis dans leur vie terrestre et comme ils sont dans leur amour et dans leur gloire. Il fonda la première confrérie du Saint-Cœur de Marie, puis la confrérie du cœur de Jésus et de sa mère. Il institua la fête du cœur de Marie le 8 février 1648. La première messe solennelle du Sacré-Cœur de Marie eut lieu en la cathédrale d'Autun et il célébra pour la première fois une fête du Sacré-Cœur le 20 octobre 1672 en développant une liturgie propre à cette fête. L'œuvre du Père Eudes est très importante car elle a servi d'intermédiaire entre, dirions-nous, l'élite des contemplatifs et la multitude des fidèles. ayant découvert un trésor de doctrine et de grâce avec saint Bernard, sainte Thérèse d'Avila, saint Philippe Néri, saint François de Sales, et l'ordre de saint Dominique avec la vénérable mère Villain et autres mystiques, saint Jean Eudes a porté cette dévotion au grand jour pour la proposer à la foi et à la piété des fidèles, mais il n'a rien omis de ce qui pouvait dissiper l'ignorance et l'indifférence des âmes envers le cœur sacré. Le père Eudes rencontra une jeune femme, Marie Desvallées, qui fut la première tertiaire du Saint-Cœur de Marie. Marie Desvallées, en 1641, eut des apparitions de Jésus. Allez vous en dire une chose trois fois, lui dit Jésus. Marie Desvallées lui répondit : Où la prendrai-je ? Ce sont, dit Jésus, ses paroles : Spiritus Domini orbem terrarum. Ce qui signifie que le Saint-Esprit mettra le feu de l'amour divin par toute la terre. Si le Saint-Esprit est l'amour substantiel du Père et du Fils, d'où jaillit le feu de cet amour, sinon du cœur de Dieu. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que le Père Eudes ait été logiquement conduit à adorer le cœur de Jésus à travers un transparent symbole et à proposer ce cœur divin au culte des fidèles. Son attention fut concentrée sur le cœur des hommes pour y faire régner Jésus et Marie. En 1643, il institua la pratique de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Le pape Léon XIII, alors le pape Léon XIII, c'est la fin du XIXe siècle, reconnut que saint Jean Eudes est l'auteur du double culte liturgie des Sacré-Cœurs de Jésus et du cœur très pur de Marie. Le pape Clément X promulgua si bref entre 1674 et 1676, approuvant le culte du cœur de Marie et le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Saint Jean Eudes, quant à lui, fut canonisé le 31 mai 1924, en même temps qu'un certain Jean-Marie Vianney. Pendant ce temps-là, à Paray-le-Monial, une jeune religieuse visitant Digne, Marguerite Marie, reçut peu après son entrée au couvent plusieurs apparitions du Christ. La plus célèbre eut lieu en juin 1675, au cours de laquelle Jésus lui montra son cœur en lui disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par leur froideur et le mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Avec l'aide du père de la Colombière, Marguerite Marie fera connaître le message que Jésus lui avait adressé. Dans une autre vision, le Christ lui aurait confié le désir que soit célébrée une fête en l'honneur de son cœur le vendredi qui suit la fête Dieu. Après cette vision, le père de la Colombière se consacra au Sacré-Cœur de Jésus le 21 juin 1675. La pratique de la dévotion des neuf premiers vendredis du mois tient son origine de la grande promesse de Jésus en faveur des personnes dévouées à son divin cœur. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à leur mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pêcheurs trouveront dans mon cœur la source de l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement à une grande perfection. Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres les talents de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur où il ne sera jamais effacé. Je te promets dans l'excès, dans la miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, 9 mois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, et que mon divin cœur sera leur asile assuré à cette dernière heure. En 1689, Marguerite Marie adressa 4 demandes à l'intention de Louis XIV. Alors, voici ce qu'elle lui demandait. Une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur, une basilique dédiée au Sacré-Cœur, la consécration de la France au Sacré-Cœur et le placement du Sacré-Cœur sur le drapeau français. Mais Louis XIV ne répondit jamais. Alors, Marguerite Marie fut béatifiée en 1864 et canonisée en 1920. La même année, je crois, si je ne me trompe pas, que Sainte-Louise de Marillac et Jeanne d'Arc. Alors, après Marguerite Marie, il y a une autre belle figure spirituelle, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors, Saint-Louis-Marie s'appliqua à populariser lui aussi la dévotion au Sacré-Cœur. Il avait donné aux premières filles de la sagesse une croix où un cœur sanglant était placé entre « Vive Jésus » et « Vive sa croix ». Il écrivait à la première supérieure des filles de la sagesse, j'adore la conduite juste et amoureuse de la divine sagesse. Sur son petit troupeau, qui est logé à l'étroit chez les hommes, pour être logé et bien caché au large dans son divin cœur qui vient d'être percé pour cet effet. En 1720, l'archevêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce, plaça la ville et son diocèse sous la protection du Sacré-Cœur pour arrêter la peste qui allait faire des milliers de morts. Toujours au XVIIIe siècle, la reine Marie Leczinska, qui était la femme de Louis XV et qui venait souvent ici, obtint des évêques de France que la fête du Sacré-Cœur soit étendue à toute la France. En 1765, le pape Clément VII institua la solennité du Sacré-Cœur et en 1856, Pie IX étendit la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église en disant « Nous n'avons plus d'espoir que dans le cœur de Jésus ». C'est lui qui guérira tous nos maux. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Durant la Révolution, la Vendée s'est soulevée contre le pouvoir en place. Alors, ce que je vais dire, c'est à prendre avec précaution parce que ce n'est pas avéré, attesté à 100%. Le 15 août 1793, dans le Maine-et-Loire, pardon, un prédicateur parla du vœu de Louis XIII. consacrant la France à la Sainte Vierge et fit allusion à un vœu plus récent, celui de Louis XVI, consacrant la France au Sacré-Cœur du fond de sa prison. Alors, le vœu de Louis XVI, c'est vrai, il a bien eu lieu. Mais ce prédicateur conclut en disant que c'est la dévotion de Louis XVI qui fut la cause du développement de cette même dévotion en Vendée et en Anjou. Mais le scapulaire du Sacré-Cœur fut porté par les insurgés dès les premiers jours de la révolte, donc avant la consécration. Un acte de foi prononcé en 1791 en témoigne, qui disait « Au cœur de Jésus, ma confiance en vous ne connaît pas de bornes, que je ne puis-je, en m'offrant victime, satisfaire à votre justice irritée et attirer sur la France entière vos divines miséricordes. » En 1871, alors ce sont les heures sombres que vécut la France, avec la défaite, la chute du Second Empire et la Commune. Il y eut un vœu national pour la construction d'une basilique dédiée au Sacré-Cœur à Paris. Alors le comité du vœu national était composé de messieurs Le Gentil, Cornuguet, Rode, Fleury, le général de Charette, le marquis de Vibray et Cyril de Mondebanc, qui était bien connu à Notre-Dame des Victoires, puisqu'il faisait partie du conseil de fabrique. Donc ce comité recueillit adhésions et dons. L'année 1873 fêta particulièrement le Sacré-Cœur à l'approche du bicentenaire des apparitions de Paray-le-Monial. De nombreux pèlerinages se déroulèrent dans cette ville. La France entière voulut se consacrer au Sacré-Cœur. Alors Marseille fut la première ville à se consacrer, puis suivirent le Nord, l'Ouest, l'Est, et Paris aura son jour privilégié le vendredi après l'octave de la Fête-Dieu, consacré à la fête même du Sacré-Cœur dans l'Église, qui lui sera assignée. Ça, c'était pour le diocèse de Paris. Donc, le 20 juin 1873, la ville de Paray-le-Monial accueillit des milliers de pèlerins venus de toutes les provinces françaises. On atteignit le chiffre de 23 000, alors venus en train, mais en ajoutant ceux qui vinrent par leurs propres moyens, à pied, à cheval, mais pas encore en vélo. En tout, cela faisait 35 000 pèlerins. Le diocèse de Paris, qui comptait 3 000 pèlerins, fit la démarche de se rendre à Paray-le-Monial. Et parmi les 3 000 pèlerins, il y avait évidemment de nombreux pèlerins de Notre-Dame des Victoires avec une partie du clergé. Donc la paroisse de Notre-Dame des Victoires se mobilisa pour vivre ce moment extraordinaire. Le curé de Notre-Dame des Victoires, le père Chevaujon, indiqua aux paroissiens que le pèlerinage à Paray-le-Monial a pour but de faire amende honorable au Sacré-Cœur de Jésus à l'anniversaire du jour où notre Seigneur apparut à la bienheureuse Marguerite Marie dans la chapelle des religieuses de la Visitation, lui disant entre autres « Je prépare toutes choses. La France sera consacrée à mon divin cœur et toute la terre se ressentira des bénédictions que je reprendrai sur elle. La foi et la religion fleuriront en France par la dévotion à mon divin cœur. » Le même pape Pie IX déclarait « L'Église et la société n'ont d'espérance que dans le Sacré-Cœur de Jésus. » Donc, le 20 juin 1673, nos pèlerins, à peine descendus du train, s'empressèrent d'aller à la chapelle de la Visitation et à l'église paroissiale. Depuis minuit, les messes se succédèrent sans interruption. Elles n'étaient point achevées à 13 heures. Des hommes de toutes les générations, des généraux en uniforme, prennent place et participent aux processions. Puis ce sont les zouaves pontificaux, devenus zouaves de l'armée de la Loire. Oui, nous sommes proches de la guerre de 1870, avec leur chef, le général de Charette. Ils ne portent aucun insigne, à l'exception de l'image du Sacré-Cœur. Ils sont venus vénérer la relique qu'ils ont laissée près des ornements de Marguerite-Marie, l'étendard du Sacré-Cœur qu'avaient brodé les religieuses de Paray-le-Monial et que le sang de ces soldats avait teinté lors de la guerre de 1870. Cœur de Jésus, sauvez la France, c'est la devise que porte l'étendard autour de son cœur en feu. Après les messes, une énorme procession s'ébranla, partant de l'ancienne église. Chacun vint prendre ses bannières sous le cloître. Les communautés venaient en tête, puis les paroisses. On mit au premier rang Metz et Strasbourg, comme l'an passé au pèlerinage de Lourdes. On compta plus de 160 bannières venues de toutes les provinces de France. La Pologne envoya la sienne et l'Espagne fut représentée par celle de Tarragone. Les ex-votos ne furent pas le moindre ornement du pèlerinage. Des chœurs, des calices, des chapelles furent apportés par de pieux donateurs. L'ex-voto de Notre-Dame des Victoires fut remarqué entre tous. Il représente un médaillon soutenant une pierre d'onyx avec au milieu un cœur en vermeil, au bas un écusson émaillé représentant la Vierge de Notre-Dame des Victoires. Les deux extrémités de l'écusson portent deux branches de lys en vermeil qui entourent le cœur. Cet ex-voto fut apporté par deux chapelains de Notre-Dame des Victoires, messieurs Choline et de la Guibourgère, au nom de l'archiconfrérie et de la paroisse. Les religieuses de la Visitation, en le recevant, dirent qu'il était le plus gracieux de tous ceux qui leur avaient été remis jusqu'ici. La messe solennelle commença à 10h30. L'église étant trop étroite, elle fut célébrée en plein air. Tous ces pèlerins unirent leurs voix dans les chants sacrés, puis ce cantique aussi patriotique que religieux, « Dieu de clémence, Dieu protecteur, sauve, sauve la France, au nom du Sacré-Cœur. » À 13h, la procession s'ébranla. L'évêque d'Autun permit que tous les pèlerins entrent dans le jardin de la Visitation. 3 heures après, le flot des pèlerins se massa à nouveau autour de l'autel érigé sur la route qui conduit à Charolles. On y vit prendre place au milieu de plusieurs évêques un prélat bien connu à Notre-Dame des Victoires, Monseigneur de Ségur. C'est le fils de la comtesse. Le salut du Saint-Sacrement suivit l'office et se termina par la bénédiction solennelle des bannières. Une cérémonie qui n'était pas prévue eut lieu. Monseigneur Lesleur, évêque d'Autun, lut une consécration solennelle au Sacré-Cœur de Jésus. Et après le premier paragraphe qui se termine par ces mots, « Ô Jésus, vous serez à jamais notre roi », l'évêque s'arrêta et la foule répéta lentement l'invocation. Le soir, après une immense procession au flambeau, les pèlerins furent reconduits à la gare. Tout le monde se sépara fraternellement, heureux d'avoir participé à ce beau pèlerinage. Le même jour, à Notre-Dame des Victoires, un salut du Saint-Sacrement eut lieu. Le curé, le père Chevaujon, en avait décidé ainsi pour unir Notre-Dame des Victoires aux milliers de pèlerins assemblés à Paray-le-Monial. Il lit l'acte d'amende honorable et un acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus que je ne vous lirai pas parce qu'ils sont très longs. Donc le père Chevaujon expliqua en quelques mots le sens et la portée de ces textes. Et ce même jour encore, la fête du Sacré-Cœur fut célébrée à Rome. Et puis, petite anecdote, des pèlerins belges firent hâte à Notre-Dame des Victoires avant de se rendre à Paray-le-Monial et revinrent le 26 juin pour rendre grâce de son pèlerinage. Plus tôt, il y a eu des pèlerins de Cambrai qui revenaient de Paray-le-Monial et qui firent halte à Notre-Dame des Victoires. Le samedi 5 juillet 1873 commençait la neuvaine préparatoire à la fête du Sacré-Cœur de Jésus, qui à l'époque était fixée au deuxième dimanche de juillet. Le père Chauvaugeon avait profité de la circonstance pour inaugurer une nouvelle chapelle dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, je pense que vous le savez, elle est au bout, après la chapelle de Saint-Joseph. Mais auparavant, elle était en face où est placée maintenant Notre-Dame des Douleurs. Alors la chapelle, elle est plus richement décorée que l'ancienne. Et le long des piliers étaient suspendues des draperies de velours rouge sur lequel rayonnait l'emblème du Sacré-Cœur brodé en or. Alors le jour de la fête commença par une messe solennelle à 8 heures, donc la messe n'a pas eu lieu ici, et a eu lieu là-bas, à la chapelle du Sacré-Cœur. La messe fut suivie par la récitation des litanies du Sacré-Cœur, puis de l'amende honorable et de l'acte de consécration au Sacré-Cœur. Le 15 août 1873, l'archevêque de Paris, Mgr Guibert, adressa une lettre au diocèse au sujet de la construction d'une basilique dédiée au Sacré-Cœur, informant qu'une souscription serait ouverte durant 5 ans à partir de cette date pour construire à Paris, sur les hauteurs de Montmartre, une église qui sera dédiée au Sacré-Cœur, conformément aux vœux des catholiques de France. Et en outre, il précise qu'il sera fait une quête dans toutes les églises et chapelles du diocèse de Paris le dimanche où sera célébrée la fête du Sacré-Cœur. Donc, comme je l'ai dit, c'est le comité du vœu national qui eut la tâche de récolter les dons et les souscriptions des fidèles. Et parmi les dons, il y eut une belle offrande du pape Pie IX. Alors l'offrande, il l'a envoyée avec une lettre d'encouragement et de bénédiction. Et pour terminer, je vais finir avec notre saint pape Jean-Paul II, qui se rendit, lui, à Paray-le-Monial le 5 octobre 1986, en disant « Nous venons ici à la rencontre du cœur transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour rédempteur qui est à l'origine du salut, de notre salut, qui est à l'origine de l'Église. Nous venons ici contempler l'amour du Seigneur Jésus, sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre, son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. Contemplons son cœur, contemplons son amour infini, celui du Fils éternel qui nous conduit jusqu'au mystère même de Dieu. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis peut-être que ça donnera l'envie à certaines personnes d'aller en pèlerinage à Paray-le-Monial. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci encore.